tous. Vous avez envie d'entendre un témoignage positif, authentique, sincère, chaleureux. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, parce que Onde Positive, c'est justement ici et maintenant. Et aujourd'hui, je suis avec Éric Vaudin. Bonjour Éric.
Bonjour Dorothée.
Éric, coach en développement personnel, la petite cinquantaine. Tu vis actuellement dans le Tarn, après avoir passé quelques années à Montauban. Et en te présentant, tu m'as dit que tu aimais bien sortir du cadre pour pouvoir mieux y rentrer.
Tout à fait.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
En fait, mon exemple le plus frappant et le plus notable, c'est quand tu prends ta route en conduisant ta voiture, tu es sur une route limitée à 90 km/h, mm-hmm. et tu as une personne devant toi qui roule à 83, qui zigzague un petit peu, 84. Et en fait, soit tu veux te mettre en sécurité et tu acceptes de doubler cette voiture qui t'a monté à 100 pour la doubler rapidement, mm-hmm. soit tu restes derrière en étant toujours dans le risque. D'accord. Et en fait, j'ai toujours aimé dépasser le cadre de sorte à pouvoir mieux rentrer dans ma zone de confort.
D'accord, bah c'est un bel exemple, on comprend tout de suite.
Merci.
Quand tu t'es présenté en me disant ça, j'ai interprété aussi cette phrase de la façon suivante, j'aime bien sortir du cadre en faisant l'enfant pour être ensuite adulte quand il faut l'être. Est-ce que c'est vrai aussi ?
C'est tout à fait ça, en fait. Il est très très important de garder, à mes yeux du moins, une part d'enfance, ce qu'on appelle l'enfant intérieur dans nos langages professionnels. Ouais. Et si tu nourris pas cet enfant, comment veux-tu être heureux, joyeux ? C'est les souvenirs quand tu vas appuyer sur les sonnettes et que tu pars en courant persuadé que le voisin t'a pas vu, alors qu'il sait très bien que c'est toi. Mais c'est ce côté-là, être capable d'éclater de rire en plein milieu d'un restaurant parce qu'il t'est arrivé une semi-catastrophe, le verre d'eau qui t'a arrosé ou n'importe quoi.
Mmh. Souvent, les adultes que l'on est tous, on se cantonne à notre position d'adulte et de parent et on oublie qu'on est aussi des enfants et qu'on peut s'autoriser à être enfant aussi.
On l'oublie certes, d'un autre côté non, je ne sais si tu as des enfants, mais quand tu te mets à quatre pattes avec eux en train de jouer au cheval, je pense que tu es un enfant avant toute chose. Mm-hmm. Après, il est vrai que le parent doit être à un moment ou à un autre une garantie, un moyen d'être certain d'avoir nos limites, nos bornes, nos cadrages. Donc c'est ce point-là qui est important. Je te rejoins sur cette vérité. Nous sommes dans des sociétés où l'adulte est beaucoup trop adulte. Mmh. Même professionnellement, si tu t'exprimes un peu fort ou si tu es un peu trop vif, on va rapidement te recadrer à te demander non pas comme ci, pas comme ça, pas ceci, pas cela.
Ouais.
Et c'est un peu dommage parce qu'on brime la créativité. Les Anglo-Saxons sont un peu plus libres que nous dans cette partie.
C'est vrai.
Je dis bien un peu plus seulement.
D'accord. Alors Éric, tu es venu pour partager trois messages positifs avec nous. On va évidemment parler de ces trois messages et on commence tout de suite par le premier, qui est le suivant, s'aimer soi-même. Comment ça se traduit au quotidien de s'aimer soi-même ?
On peut parler d'estime de soi, sauf que l'estime de soi, c'est beaucoup trop technique. S'aimer soi-même, pour moi, c'est quand on a une très grosse réserve d'amour en soi. Mmh. Et pour pouvoir diffuser de l'amour aux autres, il faut d'abord l'avoir en soi.
Oui.
Donc je prends toujours l'image d'une grande citerne qu'on remplit au fur et à mesure de petits bonheurs quotidiens.
Oui.
Prendre 5 minutes sur un banc, regarder un oiseau qui chante, qui picore, c'est 5 minutes de bonheur. Oui. Et cet amour, à partir du moment qu'on l'intègre en soi, on va être plus joyeux. Un peu comme le canard, certaines choses vont glisser sur nos plumes fortement. Mmh. Et si on poirote 3 minutes de trop à la caisse, on va l'accepter.
Ouais.
C'est aussi ça qui est important. Et s'aimer soi, c'est accepter nos différences, accepter nos comportements par rapport aux autres. Et c'est aussi, j'ai envie de dire, mettre beaucoup, beaucoup de joie de vivre, d'amour, de plaisir, de partage dans nos vies.
Mmh. Tu m'as dit, on est parfait dans notre imperfection.
Complètement.
Alors,
je revendique, tout à fait.
Quand est-ce que tu as appris ça, qu'on est tous parfaits dans nos imperfections ?
Alors, j'ai commencé des démarches de développement personnel il y a une vingtaine d'années. Mmh. J'avais 30, 33 ans à peu près dans cette partie-là. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait deux types de perfection. Celle que te demande la société, globalement, et celle qui te correspond. Je suis une personne soignée. Il ne m'arrivera pas de venir avec un jean troué, avec un jogging. Je ne me supporte pas dans ce type de vêtements. Mm-hmm. Ce n'est pas moi. Donc, je suis tout à fait parfait, entre guillemets. D'un oui. autre côté, si je dois aller faire, quand je vais à la salle de sport, ben, j'y vais pas en jogging, j'y vais toujours en jean. Mmh. Et là, je deviens imparfait. Puisque y aller en jogging, c'est quand même beaucoup plus simple pour se dévêtir, pour faire du sport rapidement et oui. revenir. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que je suis parfait dans mon imperfection et mm-hmm. je cultive aussi ma différence. Je suis par exemple gaucher contrarié, donc il y a plein de choses que je fais à l'envers.
Oui.
Comme mes nœuds de cravate. D'accord. Qui a désespéré pendant très longtemps mon père. Il ne comprenait pas pourquoi je n'arrivais pas à faire un nœud de cravate impeccable, mm-hmm. comme il faisait. Ne me demandez pas un double Windsor, ça finit en double carnage.
Moi, je ne m'y connais pas du tout en nœud de cravate.
C'est dommage, c'est un très très beau nœud, magnifique. D'accord. Le nœud des princes, entre guillemets.
Donc, c'est depuis jeune, en fait, adolescent, début d'âge adulte, que tu t'es dit que, bon, ben voilà, toi, tu étais un gaucher contrarié, tu as vécu différentes expériences qui... ont montré que finalement on était tous parfaits dans nos imperfections.
En fait, j'ai découvert ça à 22, 23 ans à peu près, quand l'aîné de mes neveux m'a demandé un jour de faire mes lacets de chaussures avec lui. Mm-hmm. Et il m'a gentiment dit, mais tonton, t'es nul, tu fais pas comme la maîtresse.
Oui.
Je comprenais pas pourquoi je faisais pas comme la maîtresse, puisque j'avais toujours fait comme ça. Donc ouais. je suis allé voir mon père, et je lui ai dit à mon père, mais papa, explique-moi comment on fait un lacet de chaussures. Mm. Et il m'a dit, mais t'es nul, tu fais pas comme moi.
Ah ouais, t'es nul, carrément.
Bah, à l'époque, mon père étant né en 33, oui. le t'es nul était logique.
Ouais, ouais, ouais.
Et j'ai compris à ce moment-là que j'avais adapté, je m'étais adapté en totalité pour un maximum de choses. Et c'est en travaillant un peu plus en développement personnel par la suite, une dizaine d'années après, que j'ai pris conscience qu'en fait, j'avais une capacité d'adaptation. Et en travaillant un peu plus et en continuant cette activité-là, je me suis rendu compte que tous les gauchers, en général, les contrariés encore, s'adaptent à la vie. Tout est fait pour un droitier en France.
Oui, d'accord.
Avoir des ciseaux de gaucher, c'est une catastrophe. Il faut vraiment les commander, les obtenir avec un peu de délai. Tout ce qui est fait pour droitier fonctionne. Les stylos plumes, par exemple, une fois que tu as pris un stylo plume et que tu as écrit de la main gauche, tu peux pas réutiliser la main droite.
Oui. Alors aujourd'hui, concrètement, au quotidien, comment tu fais pour accepter, pour être content de ta différence, de tes imperfections et t'aimer malgré ça? Est-ce qu'il y a une recette?
Oui, être soi.
Ouais.
Être soi. Quand je dis que je suis gauche des deux mains, je suis gauche des deux mains.
Ouais.
Donc si je renverse tout le verre d'eau sur la table en plein restaurant, bah, c'est moi, point.
Mmh.
Alors je peux avoir honte, certes. Mais c'est pas la honte qui fera qu'il y aura moins d'eau sur la table.
Mmh.
Donc oui, s'accepter, être soi simplement, et aussi savoir protéger son jardin intérieur.
Oui.
En fait, tout n'est pas à dire.
Mmh.
Tout n'est pas expliqué dans cette partie-là. Tout n'est pas à dire, tout n'est pas à énoncer. Mais au quotidien, à partir du moment où tu pars du point de vue que la vie est belle,
oui.
que tu te lèves toujours du pied droit,
oui.
parce que le pied gauche est une catastrophe, et ben, automatiquement ça fonctionne. Et il y a plein de moments de bonheur dans la vie. Par exemple, celui qu'on partage ensemble aujourd'hui.
Mm-hmm.
Ce moment-là, le fait d'avoir pu voir le soleil se lever pleinement avec un magnifique soleil extraordinaire. Il fait froid, d'accord? Mm-hmm. Mais le soleil est là. On n'a pas la pluie, on n'a pas ce qui s'est passé dans l'est de la France. Et puis, si ça se passe, eh ben, on trouvera peut-être un moyen d'aller aider son voisin à nettoyer sa maison. Et ça aussi, je pense que c'est important pour l'estime de soi. Donc nourrir l'amour de soi, mais aussi nourrir l'amour de ses voisins, de ses conjoints, de ses enfants. Et
s'aimer, donc ça veut dire aussi prendre du recul.
Automatiquement,
ouais.
tu es obligé de prendre du recul. Je n'ai pas les yeux bleus, je les aurai jamais, j'adore les yeux bleus.
Ouais.
Je n'ai pas rencontré le conjoint idéal avec les yeux bleus, je n'aurai pas d'enfant avec des yeux bleus.
Ouais.
À moins que la 25e génération préalable avait des yeux bleus.
Mmh.
Non, bah, c'est fini, c'est foutu. Mais je vais pas regretter des yeux bleus, j'ai pas, puisque le côté agréable, c'est d'avoir le plaisir de vivre à deux,
mmh.
ou seul suivant le choix de la personne. Et quand on a ce plaisir de partager quelque chose, ben, les yeux n'ont pas d'importance.
D'accord. Alors, il y a quelques années, Eric, tu as fait un choix important, qui a été celui d'accompagner tes parents en fin de vie. Ton père d'abord, puis ta mère.
Tout à fait.
Qu'est-ce que ça t'a enseigné sur toi, cet accompagnement, et que tu aimes aujourd'hui?
D'abord, ça m'a enseigné que je les aimais.
Oui.
Je crois que c'est le premier message que l'on peut avoir, parce que se rendre compte que ses parents diminuent au fur et à mesure, se rendre compte qu'on devient le parent de ses parents,
oui.
parce qu'il y a des choses qui ne peuvent plus le faire, c'est déjà un point important. Ensuite, ça m'a permis de relativiser et de mettre beaucoup de patience. La première fois que mon père a été hospitalisé, on nous a dit « amenez ses affaires, il va mourir dans la nuit ». Je vais peut-être paraître cynique, mais ça a mis 3 ans. Donc pendant 3 ans, il a fallu qu'on s'adapte au secteur hospitalier, qu'on s'adapte aux contraintes de la maladie et qu'on prenne conscience que l'ensemble de notre vie était en train de changer. Après, ça m'a apporté énormément parce que j'ai eu la chance d'être accompagné à ce moment-là par du personnel soignant qui venait à domicile, très présent et très professionnel. Plus des amis qui m'ont permis de relativiser beaucoup de démarches, parce qu'il est vrai que l'on souffre énormément de voir son père diminuer, de lui réapprendre à parler, à marcher, à manger, devoir faire les soins de toilette, c'est des choses qui sont très difficiles à vivre. Mais d'un autre côté, pour mon cas, je précise bien mon cas, puisque nous sommes tous différents face à ces contraintes, en fait, j'ai trouvé ça extraordinaire parce que je partageais quelque chose qui est, même si c'est éphémère, qui ne sera jamais réalisable une deuxième fois, en fait.
Tu m'as dit qu'aujourd'hui, avec le recul, l'accompagnement de tes parents en fin de vie t'a permis de te rencontrer toi-même.
Tout à fait. Oui, parce que j'ai mis beaucoup de douceur en moi, en fait.
Oui.
J'ai mis beaucoup de douceur, j'ai mis aussi de la patience, même si je demeure tout à fait impatient. Mais j'ai mis énormément de compréhension. On parle dans nos métiers d'écoute active. J'en avais, bien évidemment, au préalable, puisque c'est l'un des atouts professionnels de ma profession. Là, je l'ai développé avec le cœur.
Oui.
Être dans le... On dit aussi que le corps ne ment pas. Donc se rendre compte de la souffrance de l'autre par rapport à un comportement au niveau du corps. Se dire, voilà, tu as du mal à lever ton coude pour manger. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire moi pour t'aider pour que ce soit mieux? Et d'un autre côté, ne pas rentrer dans le faire à la place. Je crois que c'est ça aussi qui est très difficile sur l'accompagnement de fin de vie. C'est de permettre de ne pas faire à la place.
D'accompagner sans faire à la place de l'autre.
Ce qu'on appelle l'empathie. C'est-à-dire que même si j'aimais beaucoup mes parents, il a fallu que je travaille mon empathie. Quand ma mère voulait être présente, puisqu'elle était elle-même handicapée à ce moment-là, et qu'elle voulait être présente pour la toilette de son mari, ce que je conçois la toilette de mon père, en fait, il fallait que j'accepte qu'en arrivant en portant une bassine d'eau, il y avait plus d'eau autour que dans la bassine. Mais le fait qu'elle passe un gant avec une eau savonneuse sur le front de mon père, c'était énorme pour elle. Après, c'était à moi de gérer les dégâts à côté, mais ça, c'est pas grave. Ce qui était important, c'est qu'elle pouvait faire quelque chose à ce moment-là. Et je me suis rendu compte de cette différence, puisque l'accompagnement de fin de vie, je l'ai fait en partie avec ma sœur. Nos deux différences de comportement de caractère, puisque ma sœur ne supportait pas, par exemple, que ma mère vienne l'aider. Il devait avoir sa relation privilégiée avec notre père.
Donc ce que je comprends, c'est que cet accompagnement de tes parents t'a permis de te connaître en profondeur et de connaître la relation à tes parents en profondeur.
Il y a cet élément-là. D'abord, ça m'enrichit énormément à titre personnel. C'est vrai que c'est très dur à expliquer l'enrichissement que l'on peut avoir. Mais c'est vrai que ça m'enrichit à titre personnel parce qu'il a fallu retravailler des sens, comme l'écoute, le toucher, l'odorat, le visuel. Donc j'ai un odorat très développé, par exemple. Un parfum trop fort va me déranger. Donc je ne vous raconte pas quand vous devez changer une couche sur un problème d'urine ou un vomissement. Vous le dépassez. Vous vous dites, j'en suis pas capable, mais vous le dépassez. Et au fur et à mesure, vous n'y pensez plus. Vous vous passez sur autre chose.
Donc c'est aussi le dépassement de soi, de ses propres limites.
Et après, comprendre la relation d'amour de mes deux parents aussi, qui est assez particulier. Ils avaient leur fonctionnement, mais voir la détresse de ma mère dans le fait que mon père diminue autant, c'est aussi quelque chose qui était difficile à vivre. Est difficile à intégrer, puisque comme je le disais, nos parents sont entre guillemets nos héros. Ils sont responsables de tout, ils nous ont éduqués, ils nous ont amenés à ce que nous sommes aujourd'hui en partie. Après, c'est à nous de modifier ce qui était modifiable. Et ça a été impressionnant de se rendre compte que, par amour, ma mère qui marchait avec une canne, par exemple, faisait tomber la canne pour presque courir pour aller voir mon père, quitte à s'effondrer sur le lit. C'était quand même impressionnant, cette dévotion à l'homme qu'elle a aimé, à sa manière certes, mais qu'elle a aimé. Et aussi un autre point, excuse-moi, je te coupe. Important dans cette forme d'amour, c'est accepter la différence des amours. Puisqu'on n'aime pas tout de la même façon. Je regrette des fois un peu qu'en France, on aime autant le fromage que son conjoint.
Alors, on parle de choses actuellement très profondes. Hein. Alors, je t'invite à écouter le premier morceau que tu as choisi, qui parle de profondeur aussi. On en parlera juste après l'avoir écouté. C'est Adele, Rolling in the Deep. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars. Alors, Eric, en quoi elle te touche, cette musique?
Parce que pour moi, elle donne sens à la vie, en fait.
Oui.
Tu as une montée en puissance importante à un moment donné au niveau de la voix, ce côté cristallin de la voix. Elle sait monter, descendre. Et en plus, mon kinesthésique, donc j'aime tout ce qui est lié au niveau du sentiment, le ressenti. J'aime beaucoup quand, dans le clip, quand tout explose, en fait.
Oui.
Puisque quand tout a explosé, c'est que tu peux tout reconstruire.
Mmh.
Et c'est un point important que j'ai fait régulièrement dans ma vie. Alors pas des remises à zéro, puisque je parle du point de vue que les remises à zéro sont trop difficiles à mettre en route, mais des remises à 1. Puisque quand mon échelle de 1, de 0 à 10 est mise en place, en fait, je passe à l'échelle suivante.
Mm-hmm.
Et je préfère partir, dire stop, j'arrête, plutôt que de continuer dans une relation qui ne me va pas.
D'accord. Pendant la pause, quand on écoutait la musique, tu me parlais de force de vie aussi.
Oui. Parce que la voix a sa voix pour moi une force de vie, un côté cristallin dans sa voix qui ressort énormément. En plus, c'est une personne qui a démontré sa différence physiquement.
Oui.
Le côté très kitsch, années 60, un peu avec son chignon, sa robe, je trouvais ça assez sympa.
Oui, elle est un peu décalée.
Un peu décalée. Et c'est une personne qui, lorsque la montée en puissance est arrivée, a dû s'arrêter à un moment donné pour se retrouver.
Mm-hmm.
Je trouve que c'est important pour un artiste de pouvoir se retrouver parce qu'il transporte nos émotions, en fait.
Oui.
Quand on accroche sur une musique, quand on accroche sur un tableau, c'est qu'on a un ressenti, une émotion importante.
Mm-hmm. D'accord.
Et en parlant d'émotion, tu me fais penser à une image particulière. En fait, un kinesthésique a besoin de toucher, de ressentir. Je suis toujours frustré lorsque je vais dans une exposition parce que je peux pas toucher le grain du tableau ou de la statue.
D'accord. Hein. Tu as besoin aussi de voir avec les mains, d'entendre avec les mains.
Ressentir avec les mains, oui, complètement. Oui, ou avec la chaleur. Très, très, très sensible à l'ambiance de la situation.
D'accord. Tout à l'heure, on parlait de l'accompagnement de tes parents en fin de vie. Est-ce que accompagner les autres vers la mort, ça réveille en nous une force de vie?
Ça réveille une force de vie extraordinaire.
Ouais.
Extraordinaire. Alors après, c'est une croyance. Hein. Je pars du point de vue que chaque mort annonce une vie.
Mm-hmm.
Ne serait-ce que son renouveau. Alors, on a plusieurs versions du deuil. Du moins, celle que j'explique entre autres dans mon cabinet de coaching.
Mm-hmm.
Il faut savoir faire le deuil d'une situation ou d'une rencontre. Une fois que le deuil est fait, une fois qu'on a fait notre deuil, ce qui est difficile à faire dans nos sociétés actuelles, on peut partir sur d'autres bases. Parce qu'on a réussi à se transformer soi.
Mm-hmm.
Je veux dire, mon conjoint est décédé, il est décédé. Je ne vais pas pouvoir le faire revivre. Tous les barabous du monde ne vont jamais me le ramener.
Oui.
Sauf que si j'accepte ce départ, j'intègre en moi ce départ, j'accepte de me laisser le temps d'effectuer ce deuil, automatiquement, je vais pouvoir repartir sur du renouveau, un peu comme le phénix qui renaît de ses cendres. Un exemple beaucoup plus frappant pour moi par rapport à mes parents. Donc, mes deux parents sont décédés. J'ai fait l'accompagnement de fin de vie de mes deux parents. Il a fallu que j'accepte à un moment donné pour que ma mère puisse partir, puisqu'elle est dans un état de santé très limite, vraiment, où elle se tenait à... Je sais même pas si un fil d'araignée était suffisant. Il a fallu que j'accepte de dire à un moment donné, maman, moi, j'en peux plus. Je ne peux plus t'accompagner.
Oui.
Je fais le choix de repartir. Il faut que tu prennes décision de ta propre vie. Tu es à 5% de capacité respiratoire. Tu ne respectes pas le régime alimentaire qu'on te demande de faire. Je repars.
Oui, c'était toi qui la tenais en fait. Et tu as pris la décision de rompre
ce dernier fil.
Oui.
Et elle est décédée moins de 15 jours après.
D'accord.
Dans cette action-là. Alors, il faut ne pas le culpabiliser, ce qui n'est pas facile à expliquer. Je ne culpabilise pas aujourd'hui parce qu'en fait, elle serait décédée peut-être 2 jours plus tard, peut-être 3 mois plus tard, je ne sais pas, je ne suis pas devin dans cette action. Mais en fait, les souffrances qu'elle endurait étaient tellement énormes simplement pour être là.
Mm-hmm.
Et je n'accepte pas cette forme de souffrance. Je ne suis pas pour l'euthanasie à 100%, mais je suis pour la réduction des souffrances. L'accompagnement de fin de vie, c'est aussi accepter de ne pas faire souffrir l'autre.
D'accord.
Et la différence importante du deuil a été notable entre ma sœur et moi, puisque ma sœur ne s'est pas remise du deuil de notre père, alors que je m'en suis remis. Je me suis remis du deuil de ma mère, alors qu'elle avait déjà fait le deuil de notre mère avant de laisser notre mère. Donc c'est vraiment très particulier au niveau de cette action-là.
D'accord. Tout changement implique un deuil nécessaire. Pour changer, il faut faire le deuil de quelque chose.
Sans rentrer dans la technique de coaching à 100%, Hudson le démontre bien dans son programme entre le printemps, l'été, l'automne et l'hiver.
Oui.
Le deuil, c'est bien ce qu'on fait aujourd'hui, c'est le cocooning, hein, c'est se mettre la tête sous la couette, on attend tranquillement qu'on passe de moins 2 à 3 degrés, et là on voit si on sort, encore, sous réserve qu'on n'ait pas les croissants déjà préparés au four, etc. etc.
Ce que tu veux dire, c'est qu'il y a une saisonnalité dans la vie, que le deuil, ça pourrait être représenté par l'hiver.
Complètement.
C'est le moment où on est dans l'introspection, où les animaux hibernent.
C'est le moment de la dépression. On est l'hiver, c'est une dépression. La sève ne monte plus.
Oui.
Les animaux hibernent. Les chiens, les chats changent de pelage, je veux dire, comme les chevaux. En fait, c'est une période dont on a besoin. Et c'est aussi, si j'avais une suggestion à faire à nos auditeurs par rapport à une personne qui peut avoir autour d'eux qui est dépressive, l'idée c'est pas de dire sors, ça sert absolument rien.
Oui.
Elle n'est pas en capacité à sortir. demandez-lui plutôt qu'est-ce que je peux faire pour t'apporter une solution temporaire, une première réponse, t'apporter un sentiment de joie sur quelque chose.
D'accord.
C'est peut-être une autre façon d'aborder le sujet, mais tant que le deuil n'est pas fait, vous ne pourrez pas progresser.
D'accord. Et après l'hiver, arrive le printemps. Et le printemps, c'est le changement, c'est la jeune pousse, c'est le quelque chose de nouveau qui commence.
Au printemps, c'est tout ce que tu mets en place. Oui. Tu te fais plaisir à semer, et si tu arroses correctement, si tu protèges correctement, et ben tu arrives dans la période qui est extraordinaire, qui s'appelle l'été, et là tout va bien. Mais l'été peut durer 30 ans, 40 ans, je veux dire, on n'a pas de notion de temps.
Oui.
C'est très particulier à dire, mais on est tous différents. Ceux qui ont 3 enfants, par exemple, vont constater que leurs 3 enfants sont tout à fait différents. Ils pourraient être nés tous les 3 le même jour avec 1 an de différence, ils seront toujours différents. Vous prenez les triplés, il y a une différence. Oui. Elle n'est pas notable, mais il y a une différence. Il y aura toujours une légère particularité.
Chacun a son propre cycle et sa propre saisonnalité.
Complètement, oui.
D'accord. On passe maintenant à ton deuxième message positif, Eric, qui est le suivant. Pour que l'extérieur se transforme, il faut d'abord se transformer soi. Alors ça me fait penser évidemment à la phrase de Gandhi qui est très connue. Sois le changement que tu veux voir dans le monde. Comment tu l'expliques, ça ?
En fait, il y a deux mondes. Il y a mon monde intérieur.
Oui.
Et celui que j'exprime à l'extérieur. Je fus grand fumeur, très très grand fumeur. Je fumais 3 paquets de cigarettes par jour. Et un jour, mon conjoint m'a dit plusieurs fois, faut que t'arrêtes, faut que tu fasses ceci, faut que tu fasses cela. Et plus on me disait arrête, plus en fait je serais passé au 4e paquet, voire le 5e, voire le 6e.
Oui.
Et puis je me suis réveillé un matin, j'arrivais plus à me sentir. Je me ressentais plus. J'avais l'impression d'être une cigarette à moi tout seul. Et j'ai arrêté du jour au lendemain et j'ai pas repris. Et ce depuis 2005. Donc voilà. Je peux pas pouvoir transformer l'autre. C'est pas possible. Ce sont mes actes que je dois transformer pour transformer l'autre.
Oui.
Si je ne transforme pas mes propres actes, je ne peux pas obliger l'autre à faire quelque chose.
Ça, c'est un message clé du coaching, justement. Quand on souhaite qu'une situation change autour de soi, il s'agit d'abord d'opérer un changement sur soi pour voir la situation changer.
Un exemple facile, ce sont les enfants.
Oui.
Nous sommes tous déjà submergés par la capacité du petit comme au dernier d'avoir des choses qui nous insupportent en totalité. On va prendre le linge sale. Certains ne savent pas utiliser la panière à linge sale. On a tous nos astuces. Alors c'est je passe une fois par semaine, je ramasse tout, je fais le lavage et après je hurle comme pas possible.
Oui.
Je pars du point de vue, je ne fais rien et je vais attendre tranquillement que tu viennes réclamer ton short sale pour aller faire un tour au foot.
Oui.
Et quand tu l'auras eu une fois sale, deux fois sale, trois fois sale, peut-être que tu penseras à le mettre quelque part.
C'est une autre stratégie.
En fait, c'est ça, la stratégie que tu appliques. Mais toi, dans tout ça, en fait, qu'est-ce qui est important ? Si tu supportes pas que sa chambre soit en désordre et que tu laves et que tu changes tous les jours ses draps, que tu nettoies tout en totalité, si tu te modifies pas, pourquoi lui le ferais ? Pourquoi est-ce qu'il irait jusqu'à la panière ? Puisque quoi, il sait que tu vas le faire. Donc c'est ça. C'est à toi de modifier. Et c'est vrai que c'est une clé forte du coaching, de se transformer soi et de surtout pas essayer de transformer l'autre. Parce qu'en fait, quand tu te modifies, les autres sont d'office modifiés.
Oui. Alors, on parle du coaching, justement. J'aimerais bien que tu m'en donnes une définition, parce qu'aujourd'hui, c'est un terme tellement galvaudé, tellement utilisé à toutes les sauces.
Alors, j'aime bien la définition originale du coaching. En fait, le coaching vient du cocher, celui qui menait les chevaux vers la destination qui lui était fixée. Un coach, pour moi, c'est un accompagnateur en réussite.
Oui.
C'est une personne qui doit être à tes côtés, dans l'empathie, être en écoute, définir avec toi les objectifs que tu veux atteindre, qu'ils soient toujours réalisables et quantifiables, et que de plus, tu définisses après les sous-objectifs au fur et à mesure. T'accompagner dans la réussite, c'est t'entendre, te dire oui, j'entends ce que tu me dis, maintenant, est-ce que toi, tu as fait quelque chose pour ? C'est un questionneur, c'est celui qui va t'amener à t'interroger sur toi.
D'accord.
Mais il marche à côté de toi, il ne prend pas tes chaussures, puisque l'empathie, c'est marcher à côté, il ne prend pas tes chaussures, il ne prend pas tes ampoules et tes corps aux pieds.
D'accord.
Sinon, tu tombes dans la sympathie. Et quand tu tombes dans la sympathie, tu pleures avec la personne qui est à côté de toi. Je suis désespéré, Mon mari m'a quitté, mes enfants ne me parlent plus, ma mère me fait la tête, ma belle-sœur me massacre. Donc soit tu es la bonne copine, et dans ce cas-là, tu prends ton mouchoir et tu pleures avec,
oui.
Soit tu es le coach et tu dis, ok, maintenant, quel est l'objectif que vous voulez vous fixer? Comment on va le réaliser? Et jusqu'où on va aller? En fait, c'est le jeu du CQQ s'est occupé.
Oui.
Les qui, quoi, comment, combien, où, quand. C'est ce jeu-là.
D'accord, donc c'est un jeu de questions qui vont faire prendre conscience à la personne, que, lui faire faire un état des lieux en quelque sorte,
fait, oui, oui.
Et déterminer une situation qui lui conviendrait mieux, et voir comment elle peut arriver à cette situation.
C'est ça, c'est aussi une personne qui doit être dans l'adaptabilité. En fait, tu peux très bien définir un premier objectif, tu as travaillé sur un objectif, et te rendre compte que cet objectif n'est pas atteignable immédiatement. Donc dire voilà, dans 2 ans vous voulez être ça, ok, ça marche. Mais avant, qu'est-ce qu'il vous faut? Il faut peut-être trouver des réponses à des questions que vous vous êtes posées ou non posées dans cette partie-là. Et c'est surtout ne pas, en fait, en qualité de coach, tu pressens certaines choses, tu es dans un ressenti. Ne pas y mettre ton ressenti, être toujours ce que j'appelle en valeur absolue.
Oui.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas me dire, je vais être chirurgien, dire, attends, la pauvre fille, elle a qu'un CAP, on va pas y arriver. Donc, si elle va pas y arriver, je vais juste dire, aide ménagère dans un hôpital. Stop. Ça, c'est pas possible. C'est pas du coaching. Ça, c'est imposer ta volonté à l'autre.
Oui.
Tu veux être chirurgien? Ok. Comment on fait pour devenir chirurgien? Donc, d'abord, tu te renseignes sur le métier de chirurgien. Est-ce que tu peux l'atteindre tout de suite? Non. Qu'est-ce que tu mets comme étape pour l'atteindre? Etc., etc. Et c'est ça. En fait, c'est permettre à la personne de jalonner son parcours. Il me vient une image que je trouve très sympa, c'est le petit bonhomme qui est face à un gros nœud sur un chemin qui est un gros nœud, un peu comme un labyrinthe.
Oui.
Ça, c'est avant la rencontre avec le coach. Lorsqu'il rencontre le coach, ce gros nœud devient un gros point d'interrogation.
Oui.
Et quand il quitte le coach, il a dessiné à la main son chemin.
D'accord, c'est une image sympa.
Et tu dessines ton chemin. Mais moi, après... un coaching, ça peut être sur 5 séances. Hein. C'est pas obligatoirement quelque chose de très long. C'est probablement quelque chose qui va t'influencer pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans comme un psychiatre ou un psychanalyste. Ouais. C'est probablement ça.
Ça permet de franchir des étapes.
Différentes, ouais. Qu'elles soient personnelles ou professionnelles. J'insiste bien sur les deux. En fait, on peut surmonter des étapes personnelles ou professionnelles.
D'accord. Et alors, une personne qui travaille sur elle-même va nécessairement rencontrer des personnes qui sont dans le même travail qu'elle. Et va donc s'entourer de personnes qui également sont dans le changement, travaillent également sur elles. C'est ce qu'on appelle la loi d'attraction. Tu m'as parlé de la loi d'attraction.
Oui, en fait, parce que nous sommes tous une source d'énergie.
Oui.
On lâche tous une partie d'onde. Il y a des fois, je fais cet exemple, il y a des fois on te dit, celle-là, je la sens pas. Je sais pas pourquoi je la sens pas. Dans la soirée, je vais pas m'en approcher, je la sens pas.
Oui.
Elle me plaît pas.
Oui.
Tu sais pas pourquoi. Alors ça, c'est l'instinct, on va dire c'est l'instinct féminin ou masculin. Nous sommes moins doués les hommes, bien sûr, sur cet instinct-là. On a tendance plutôt à aller voir ce qui va pas que ce qui va.
Ouais.
C'est plutôt masculin, entre guillemets. Mais c'est pareil, c'est une boutade, c'est une généralité. À partir du moment que tu définis une source d'énergie, tu vas rencontrer des gens autour de toi qui sont dans cette énergie. Et au fur et à mesure que tu progresses, tu vas changer d'énergie. Tu es peut-être montalbanaise depuis de nombreuses années. Tu n'as peut-être plus les mêmes amis aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Entre-temps, il y a des amis que moi j'ai perdus dans mon parcours, que j'ai perdus peut-être définitivement, puisqu'on rencontre toujours, ça c'est aussi une croyance, la bonne personne, le bon jour, à la bonne heure et pour la durée exacte. Il y a des amis que je ne reverrai plus du tout. Et d'autres personnes que je rencontre 10 ans plus tard, extraordinaires, tu nous as manqué, on ne s'est pas vu, on ne s'est pas vu depuis hier. Non, ça fait 10 ans qu'on ne s'est pas vu. Mais j'ai changé et eux aussi. Et plus tu travailles sur toi, et c'est vrai que j'aime beaucoup ton exemple de Gandhi, parce qu'en fait, c'est une personne qui a toujours travaillé sur lui. Il n'a jamais changé l'autre.
Oui.
Quand il a voulu battre la guerre, il s'est assis en plein milieu d'un chemin. C'est les autres qui ont vu qu'il réussissait à bloquer la guerre. Et les autres se sont assis autour de lui. C'est ça qui est important. Et en fait, c'est cette énergie-là qui est importante. Quand tu es bien dans ton corps, dans ta tête, dans ta peau, dans ta façon d'aimer, automatiquement, tu apportes des gens qui sont comme toi.
Oui.
Un autre exemple idiot, pour certains peut-être, c'est le coût de l'accident de voiture.
Oui.
Ah, je vais avoir un accident. Oh, je sens qu'il y a un accident de voiture. T'as vu là, c'est le bouchon. Oh, et puis boum, t'as l'accident de voiture.
Ouais. Alors, comme si on se l'était attiré quelque part.
On se l'est attiré en fait. Ouais. Le comme si ne va pas. Uh-huh. On se l'est attiré. Le comme si je l'utilise en PNL, ça c'est pas pareil. Mais là, on se l'est attiré en fait. On a tellement voulu cet accident de voiture. Uh-huh. Qu'on l'a obtenu. J'aime beaucoup la pub, là, je sais plus si c'est Peugeot ou Renault sur la reprise, quand la météorite tombe sur la voiture et qu'il est tout content parce qu'il va changer de voiture.
Oui.
Donc il a attiré la météorite sur sa voiture. Mm-hmm. Voilà. Ça, c'est un exemple visuel qui est assez sympa,
d'accord,
je trouve.
Donc quand on travaille sur soi, quand on s'aime, quand on a des idées positives, des pensées positives, on attire à soi des personnes qui s'aiment également, qui pensent positives, qui sont dans le changement.
Oui, c'est pour ça que je dis qu'en fait, quand on est dans une action aidante, quand on s'aide soi, on aide automatiquement ce qui est autour de soi,
et
on attire ce qui est autour de soi, et on va rencontrer, c'est extraordinaire qu'on va, on va rencontrer les bonnes personnes.
Mm-hmm. Et ça fait effet boule de neige.
Automatiquement, et on progresse. Et on progresse en interne, parce qu'on progresse dans nos ressentis et dans nos échanges.
D'accord. Alors, je viens de dire, ça fait effet boule de neige. Ça me fait penser au clip de la deuxième musique que tu as choisi.
Il est extraordinaire.
C'est Tongue. Le morceau s'appelle Bullets.
Green hills and enemies, these things they make us sentimental inside. Your words are gel ignite, or just another sentimental aside. We're catching bullets in our teeth, and though it's easy if you know how it's done, they split the secret up six ways before they gave it to us just before dawn. And now we don't remember. Our blood and guts are out, we spread our bones across the table at night. We cut our fingers off to give ourselves those little extra insights. We're catching bullets in our teeth, and though they try hard not to say how it's done, they always do. They spill the secret our six ways and beg for our forgiveness just before dawn. And now we don't remember.
In the dream.
bassin du groupe Tong. Alors pourquoi ce choix, Eric ?
Je vais rester visuel hein, sur la partie du clip. D'abord, j'aime beaucoup ce monsieur qui a la tête dans la planète et qui a tout autour de lui plein d'objets du quotidien. Mm-hmm. Ensuite, c'est un rythme de vie. On l'entend, il y a des gouttes d'eau, il y a pas mal d'éléments. Ils utilisent beaucoup de sur cet album-là, entre autres, beaucoup d'outils cohérents. Ça me rappelle un autre morceau qui est sur l'album, quand t'as une femme qui marche avec son aiguille, le clocher de l'église qui sonne. Mmh. Et c'est vrai que je trouve ça très sympa d'intégrer dans des chansons cette partie du quotidien.
Ouais.
Et c'est aussi, pour moi, on reste sur la notion de la joie de vivre et de l'hymne à la vie, parce qu'il y a quand même quelque chose de rythmé, quelque chose de chantant.
Ouais.
Et il y a également une douceur dans la voix.
Ouais.
Cette voix rauque qui est assez douce, qui monte en puissance, mais pas trop.
De la douceur et de la légèreté aussi, quelque part.
Oui.
C'est très léger à entendre.
Oui, écoute, oui, c'est ça. Ça donne envie d'aller courir dans la neige si on a envie, puisque c'est la bonne période. Mais ça donne envie, c'est vrai, d'exprimer sa joie de vivre, tout à fait.
Ouais. Ouais, en tout cas, c'est une belle idée que les bruits du quotidien forment une musique et se mettent en harmonie. Ça, je trouve ça sympa. Ouais.
Je vais te lancer une perche à mon tour. C'est notre ici et maintenant. C'est aussi ce qu'on a en permanence autour de nous. Je me souviens toujours, on habitait à l'époque en Alsace avec mes parents et on avait le train qui passait pas loin de l'immeuble. Mm-hmm. On l'entendait plus du tout. On était tellement habitués, on l'entendait plus du tout. Des amis de longue date de mes parents sont venus et je me souviens toujours de gens qui disaient à Mado, oh, regarde Mado, il y a le train qui passe.
Ouais.
Nous, ça nous semblait une aberration. Le train, on traversait la voie de chemin de fer pour aller à l'école, on traversait la voie de chemin de fer pour aller au supermarché, etc., etc. Donc c'était intégré à notre quotidien.
Mm-hmm.
Et eux, c'était extraordinaire, le train passait.
Ouais.
Et pourtant, ils habitaient en centre-ville. Donc c'était assez rigolo pour nous dans cette notion-là. C'est quand même assez particulier. Et le ici et maintenant, c'est aussi, quand on parlait de moyens de se transformer, de se changer, c'est aussi le moyen de se dégager de certaines contraintes dans nos vies.
Mm-hmm.
De dire, aujourd'hui, je vis ça pleinement. Quand je suis avec mes enfants, je suis vraiment avec mes enfants, je pense pas au boulot.
Et ouais. Alors le ici et maintenant, ça tombe bien parce que c'est aussi une façon de relativiser. Et relativiser, c'est ton troisième message positif. Relativiser. Qu'est-ce que tu veux dire par là ?
Alors, je vais d'abord offrir une technique de coaching qui est assez sympa et que j'aime beaucoup, qui est la poubelle virtuelle.
Mm-hmm.
Quand on est sur l'ordinateur, on peut cliquer sur la poubelle virtuelle.
Oui.
On met dans la poubelle, après on la vide ou on la vide pas.
Mm-hmm.
En fait, on peut faire la même chose au quotidien. Donc certains vont choisir une feuille blanche, d'autres une feuille violette, rose, fuchsia, peu importe, un petit bout de carnet, le dos d'un prospectus, suivant qu'on est un peu plus écologique, pour refaire un lien avec Tong dans cette partie un peu écologique qui me tient aussi un peu à cœur.
Ouais.
Et tu vas marquer tout ce qui te préoccupe dans cette matinée, dans cette journée. Donc tu vas par exemple prier cadeau Noël de maman. Tu n'auras pas le temps aujourd'hui de t'en occuper, tu es débordé, tu vas finir tard ce soir, à moins que tu sois une fan d'internet. Mais tu vas pas avoir le temps. Donc tu marques cadeau de maman. Tu vas marquer facture EDF. C'est pas que tu vas pas la payer, mais tu vas attendre ce soir pour la payer ou demain. Et en fait, une fois que tu auras fait la liste de tout ce qui va, entre guillemets, pourrir ta journée, toutes ces notions de toxicité, tu l'as fait, tu l'applies bien, et tu le jettes à la poubelle. Deuxième astuce, tu le jettes pas dans la poubelle de ton bureau. Ou de celle de la maison, ça n'a aucun intérêt parce que tu vas y penser.
Ouais.
Il va falloir que tu penses à sortir de ton bureau pour le jeter dans la poubelle de ta voisine, par exemple, de bureau.
D'accord.
Alors, je rassure les voisines de bureau, elles n'auront pas le droit à la toxicité de la feuille
elles
de leur voisine.
Elles ne récupèrent pas les déchets des autres.
Absolument pas. Mais c'est un moyen de ne pas conserver ça en tête.
D'accord, c'est symbolique. Hein.
C'est tout à fait symbolique. Mmh. Et ça fonctionne très bien. Donc c'est ça aussi, tu es dans le ici et maintenant, si tu vas emmener ton fils au cinéma et que tu penses déjà au lendemain à faire les courses, etc., tu vas jamais profiter du film et de l'instant que tu es avec ton enfant.
Mmh, d'accord.
Voilà, c'est ça aussi le ici et maintenant. Et ça veut dire aussi que tu peux traiter au fur et à mesure les difficultés, les problèmes, les contraintes que tu rencontres.
Oui.
C'est pas en étant toujours dans l'anticipation que tu vas y arriver.
Eh oui.
Puisque dans ce cas-là, tu es en train de polluer ton ordinateur de poche qui s'appelle ton cerveau, quoi.
Oui, parce qu'on est souvent soit dans l'anticipation, donc on pense à l'avenir et on oublie d'être dans ce qu'on est, dans ce qu'on fait actuellement, ou alors on est dans le passé avec la culpabilité, les remords, etc. Et on oublie que là, on est en train d'être quelque chose, de faire quelque chose et on zappe ce temps quelque part.
La société de rapidité dans laquelle nous sommes ne nous laisse plus le temps. Oui. Donc, quand tu n'es pas dans le ici et maintenant, j'expliquais à mes stagiaires pendant très très longtemps, lorsqu'ils cherchaient entre autres du travail, puisque j'ai été longtemps formateur en insertion professionnelle, je leur expliquais qu'en fait, tout le passé, tout ce qu'ils avaient vécu au préalable, c'est ce qu'ils étaient devenus aujourd'hui. Voilà, tu as eu 5 enfants, je ne vais pas pouvoir te demander de les rayer de la carte.
Oui.
C'est trop facile, beaucoup trop facile. Par contre, que tu anticipes déjà que le petit dernier qui a 6 mois va être enseignant ou encore mieux avocat ou extraordinaire président de la République, il a que 6 mois. Donc commence déjà à penser aux couches à changer avant de penser à autre chose. Alors que tu as envie de prévoir un futur, je le conçois. Mais en fait, ton futur ne peut être déterminé que par rapport à ton présent.
Et oui.
Donc voilà, c'est vraiment la subtilité du ici et maintenant, c'est se dire que je ne peux pas vivre dans mon passé en permanence et je ne peux pas être dans mon futur en permanence.
Ouais.
Il faut bien qu'à un moment ou à un autre, je me pose pleinement.
C'est et une quand question d'équilibre.
Voilà, et quand j'en suis dans ce ici et maintenant, quand je relativise sur certaines situations, ça veut dire que d'office, des réponses apportent. L'augmentation de la taxe d'habitation a été phénoménale. Et c'est quelque chose d'assez surprenant dans certaines villes. Ceux qui sont allés négocier ont généralement obtenu une négociation.
Oui.
Ils ont obtenu quelque chose, un délai de paiement ou d'autres critères. C'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai qu'ils vont avoir des difficultés financières. Mais c'est fait. Et si tout le temps ils sont en train de se dire, voilà, il faut ça, ils vont pas l'obtenir. Pour faire sourire les auditeurs, j'ai reçu ma taxe d'habitation de mon ancien lieu de résidence que j'ai quitté il y a plus d'un an, donc qui n'a pas lieu d'être.
Oui.
Voilà, je l'ai reçu. J'ai éclaté de rire, j'ai fait un mail disant, voilà, je comprends pas, je vais aller en le document justificatif. Dans les 5 minutes qui ont suivi, j'ai un mail de confirmation me disant que j'allais avoir un dégrèvement correspondant à la totalité.
D'accord. Tout ça en relativisant et en agissant dans le
tout
moment
suite,
présent.
Tout de suite, c'est fait. Voilà, j'ai pris contact, j'ai organisé.
D'accord. Relativiser, c'est aussi penser aux solutions plutôt que aux problèmes.
Alors, je dirais pas penser aux solutions. Je vais supprimer le haut. Je vais dire penser solutions.
Oui.
Plutôt qu'aux solutions. Parce qu'en fait, la solution, elle vient peut-être pas de ce que tu as pensé. Tu as une soirée extraordinaire ce soir, ton mari est occupé de son côté, t'es occupé du tien, personne pour t'occuper des enfants. Malheureusement, c'est le moment où les grands-parents ont décidé de partir ensemble en vacances à l'autre bout du monde. Et voilà. Et tu te dis, mince, ce soir, je suis d'annuler, etc. Et t'en parles à ta petite voisine d'à côté qui a 16 ans, qui dit, moi, je peux te les garder ce soir. Donc, tu vois, c'est la différence entre penser aux solutions et penser solutions. Parce qu'à un moment donné, t'as des solutions auxquelles tu t'attends pas du tout. Tu vois, ton garagiste est désespéré. Ta voiture avance plus, il te dit, tenez, je vous en prête une, le temps de vérifier ce qui se passe, alors que tu ne l'as même pas demandé.
On est plutôt formaté dans notre société à penser aux problèmes plutôt qu'à penser solutions.
Dans l'ensemble, tout à fait, oui. C'est pour ça qu'on revient bien à la transformation de soi. Si on transforme notre façon de penser, on transforme automatiquement notre capacité à recevoir. J'ai un exemple assez rigolo d'une amie qui était désespérée. Elle voulait faire la rencontre de sa vie. Elle voulait. Pendant 15 ans, elle nous a enquiquinés avec la rencontre de sa vie.
Oui.
Pendant 15 ans, personne ne m'aime. Et puis...
Donc elle pensait problème.
Oh, même plus que problème. Pour ses catastrophes. Et puis, elle va se stationner. Elle a un accident de voiture en se stationnant. La personne a signé le constat de, et il est toujours avec elle dans sa vie.
Ah oui, ça, c'est une belle histoire. Donc, parfois, le problème emmène la solution.
Tout à fait, oui. Il faut, mais vraiment, en fait, à un moment donné, il faut savoir sortir. On revient même par rapport au cadre. Quand tu sors du cadre, quand tu sors de ce qui te contraint, quand tu mets de côté, la solution peut arriver. Mais c'est plus difficile aujourd'hui. Nous avons une chance importante, c'est que les générations montantes sont plus sensibles que nous. Donc si nous continuons en qualité de parents, d'aidants ou d'enseignants, à leur accorder cette pensée solution, je peux vous assurer que le changement va être extraordinaire.
Ah, ça, c'est super. Alors, une autre façon de relativiser aussi, c'est tout simplement faire la fête.
Tout à fait, oui, c'est une très bonne idée, et nous sommes en bonne période.
Faire la fête, lâcher prise, laisser s'exprimer l'enfant que l'on a en nous, on en parlait en début d'émission. Et alors, tu as choisi une super musique pour faire la fête, c'est Bob Sinclair et Raffaella Carrà, Fare l'amore. L'amour et Bob Sinclair et Raffaella Carrà. Alors, qu'est-ce qu'elle symbolise pour toi, cette musique, Eric ?
En fait, elle symbolise toujours la joie de vivre, mais surtout la célébration.
Ouais.
C'est aussi un point important du coaching que j'ai appris, c'est célébrer. Mm-hmm. Une fois qu'on a atteint l'objectif, une fois qu'on est dans le résultat souhaité, le célébrer, faire la fête,
ouais.
Faire plaisir.
Se féliciter, et voilà.
Comme on le fait pour un mariage, comme on le fait pour une naissance... Comme on le fait parce qu'on a obtenu un examen, c'est célébrer. Ça, c'est très, très important de célébrer.
D'accord. Bah, c'est aussi une façon de s'aimer. Hein, et on boucle la boucle.
On boucle la boucle et surtout une façon d'être heureux.
Ouais.
Dès qu'on fait la fête avec ceux qu'on aime, automatiquement, on est rempli de joie.
Ouais, c'est sûr. Alors, Eric, si les auditeurs ont besoin de ton soutien, de ton accompagnement inconditionnellement positif, comment peuvent-ils faire pour te joindre ?
Alors, ils peuvent me joindre, bien évidemment, sur mon portable, au 06 78 76 55 62. Et ils peuvent également me joindre par l'intermédiaire de la radio, je suppose, dans cette action-là, ou par ton intermédiaire. Donc voilà, pour me joindre, c'est la partie la plus simple.
D'accord.
Et je participe également ponctuellement, comme ce samedi, non pas en qualité de participant, mais en qualité de personne qui est présent à des séminaires ou des rencontres interprofessionnel, entre autres sur les enfants précoces et sur d'autres actions complémentaires.
D'accord.
Puisque l'importance d'un coach, c'est d'accompagner. Et le coach ne vit que s'il accompagne.
Mm-hmm. Et tu travailles donc sur plusieurs départements, hein,
voilà, tout à fait. Je me définis sur des villes, on va dire grossièrement, Albi, Toulouse, Montauban.
D'accord, ok. Toutes tes coordonnées seront reprises sur le podcast de l'émission.
Merci à vous.
Je te remercie, Eric, pour le temps que tu as accordé à Ondes Positives et puis pour toute l'énergie que tu mets au quotidien au service du positif.
Grand merci également à toi et à CFM de nous offrir ces moments de partage. Bon, un seul petit regret, il a manqué le feu de cheminée pour être encore plus dans la convivialité, mais merci énormément de votre accueil.
Je t'en prie, ça m'a fait très très plaisir. Chers auditeurs, vous l'aurez compris, s'aimer soi-même, se transformer soi pour transformer la société et relativiser, voilà trois clés de réussite proposées par Eric aujourd'hui. Cette émission est rediffusée samedi à 21h et vous la trouverez en podcast sur cfmradio.fr. Pour me contacter, c'est très simple, je vous le dis toutes les semaines, c'est dorothée.alio@hotmail.com ou sur la page Facebook Ondes Positives CFM Radio. Je vous souhaite un bon après-midi, une bonne semaine positive et à mardi prochain.